Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes le samedi 23 février 2019 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes 2019. Je suis Hammer et ce matin, je suis accompagné de mon camarade Benoît FX. Bonjour Benoît FX.
Salut Hammer.
Tout va bien en cette fin de matinée?
Ça va, dernière interview de la matinée. Après, on va pouvoir jouer un peu cet après-midi. On tourne les équipes, comme ça on peut profiter du salon et faire notre boulot de chroniqueur et d'intervieweur.
Exactement, j'ai hâte de retourner aux tables de jeu. Et pour cette dernière interview de la matinée, nous accueillons Pierre-Henri Dupont de chez Ankama Board Game. Bonjour Pierre-Henri.
Bonjour, bonjour à vous.
Ça alors, bien, tu vas bien?
Mais très bien, samedi matin, on a encore de l'énergie, tout va bien.
Parfait.
Parfait. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on a un petit questionnaire fil rouge pour tous nos invités.
Oui.
Un petit questionnaire cannois. Alors pour toi, Cannes, c'est plutôt jeu ou cinéma?
Plutôt jeu, forcément.
Ouais, surtout en ce moment.
Ah, oui, évidemment. Plutôt bière ou champagne?
Alors, étant basé dans le nord de la France et juste à côté de la Belgique, je suis obligé de répondre bière.
C'est une réponse logique, effectivement. Plutôt camping ou Martinez?
Plutôt camping.
D'accord. Plutôt off ou dodo?
Off.
Ah.
Off, évidemment.
Il y en a pas beaucoup.
Il y en a pas beaucoup qui ont répondu ça.
Bah, on a rencontré beaucoup de vieux éditeurs qui commençaient à fatiguer et à aller se coucher le soir.
Ah, l'ambiance est quand même sympa.
Ouais.
Alors, plutôt salon ou festival? Celle-là, elle est un peu plus difficile.
Alors, du coup, vous faites quelle différence?
C'est à ton interprétation.
C'est mon interprétation. C'est bien ça. Alors, plutôt festival.
D'accord. Et finalement, plutôt pro ou perso?
Plutôt pro.
D'accord, eh bien, c'est noté. Alors, effectivement, comme je le disais en introduction, tu travailles chez Ankama, et j'ai précisé Ankama Board Games,
oui.
Parce que Ankama, c'est une entité un petit peu multiforme. Vous faites pas que du jeu de société, vous faites aussi du jeu vidéo.
De la bande dessinée.
Exactement.
Donc, c'est un acteur un petit peu particulier dans le monde du jeu de société. Pour commencer par justement le jeu de société, votre nouveauté là à Cannes, qu'on a pu tester d'ailleurs une partie de l'équipe, c'est Draftosaurus, c'est bien ça?
Oui, Draftosaurus absolument, qui est sorti là sur le salon.
D'accord, alors c'est je crois un des premiers jeux qui a été sorti par la team Kaedama, qui commence à être connue dans le milieu.
En tant qu'équipe, oui.
En tant qu'équipe, donc les quatre auteurs, je vais les citer...
Théo Rivière,
Antoine Boza, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc. Voilà.
C'est bien ça.
Bien. Donc c'était un jeu de commande finalement pour la team Kaedama?
Alors, oui et non. C'est pas un jeu qu'on leur a commandé directement. Par contre, c'est un jeu qu'on a eu la chance de récupérer en partie via l'agence Forge Next.
D'accord. Gaëtan Bojano.
Exactement.
Et tu peux nous pitcher un petit peu le jeu de Draftosaurus?
Bien sûr. Alors tout est dans le nom. C'est un jeu de draft. Et donc le Osaurus est là pour le côté dinosaure. C'est un jeu de draft de meeple de dinosaure où chaque joueur va avoir un petit parc avec différents enclos et va devoir placer 12 dinosaures durant la partie sur ce petit parc. Et selon la position dans les enclos, ça rapportera des points de manière différente. Par exemple, certains enclos vont demander de mettre exactement le même dinosaure dedans, d'autres de faire des couples de dinosaures. Et à chaque tour, quand on va poser un dinosaure, un joueur va également lancer un dé de contrainte qui va obliger les joueurs à respecter certaines conditions de pose. C'est un jeu qui est très rapide, c'est un jeu familial.
D'accord. Combien de temps à peu près?
15 minutes.
15 minutes, ouais.
Oui, 15 minutes.
Très rapide.
Et si je dis pas de bêtises, c'est 2 à 5 joueurs, c'est ça?
C'est 2 à 5 joueurs, c'est bien ça.
D'accord. Oui, pour y avoir joué moi-même pendant le salon, j'étais un petit peu au courant.
Ça aide.
Ça aide, effectivement.
Donc ça, c'est votre nouveauté. Avant ça, c'est quoi un peu la jeunesse d'Ankama, Board Games? C'est, au départ, c'était assez lié à la branche jeux vidéo, j'ai l'impression, non?
Alors, c'était plus lié aux autres branches. Au départ, effectivement, comme vous l'avez souligné, Ankama, ce n'est pas que du jeu de plateau. Le jeu de plateau, c'est ce qui arrivait en dernier. C'était du jeu vidéo, de la BD, de la série d'animation également.
Dofus pour ceux qui connaissent.
Et tout au départ, en 2012 est arrivé notre premier jeu qui était Crossmaster Arena. Mmh. C'était une extension des univers créés sur les autres branches, amenés dans le jeu de société. Et depuis, on a évolué. Depuis 2016, maintenant, on ne fait plus que de la déclinaison, du coup, de nos univers existants sur d'autres branches dans le jeu de société. On fait également l'inverse, c'est-à-dire qu'on va signer des jeux autres qui ne mettent pas nos univers et qui sont d'auteurs externes.
Des jeux originaux.
À Ankama, voilà, des jeux totalement originaux, comme n'importe quel éditeur,
ouais,
en fait.
Tout à fait.
Et par contre, là où on a aussi l'intérêt, c'est d'avoir certains jeux qui vont nous permettre de créer un univers en partant du jeu de plateau. Par exemple, on a sorti Monster Slaughter l'année dernière, donc qui est sorti en boutique en décembre, qui est un univers qui a été créé pour un jeu de plateau, et là on est en train de travailler sur une série animée.
D'accord, donc il y a une énorme porosité entre les différentes branches Ankama, animation, BD, jeux vidéo.
Il y a une porosité globale, oui. L'objectif, c'est, en fait, on aime bien décrire notre métier chez Ankama comme être créateur d'univers.
D'accord.
Du coup, ça doit poser pas mal de contraintes supplémentaires, parce qu'il y a plusieurs médias finalement à coordonner pour obtenir des univers, je dirais, cohérents les uns avec les autres.
Alors, ça ne pose pas de contraintes particulières, puisque ce n'est pas quelque chose qu'on va forcément adapter à tous les jeux. Par contre, il y a certains jeux qui sont prédisposés pour...
Qui ont du potentiel pour ça.
Qui ont du potentiel à ce niveau-là. Et si j'ai envie de dire, quand les étoiles s'alignent, du coup, sur un projet, dans ce cas-là, effectivement, on va s'arranger pour que les choses se coordonnent, puissent fonctionner en synergie, que les dates coïncident, par exemple, pour faire simple. Mais si ça ne... Ce n'est pas un prérequis, en fait.
D'accord. En fait, t'as répondu à pas mal de questions qu'on se posait sur la place des jeux autres proposés par des auteurs. En fait, vous n'êtes pas du tout fermé à ça. C'est vrai que pour un auteur, je ne sais pas si pour l'instant, Ankama, c'est le déclic naturel, parce que c'est vrai qu'au départ, vous avez une image qui est très justement licence, vos propres licences, etc. Mais donc là, s'il y avait un message à faire passer aux jeunes auteurs, c'est qu'ils peuvent venir vous présenter des protos. Il y a pas, voilà, vous êtes pas du tout fermé à ça, quoi.
Alors, nous ne sommes pas du tout fermés à ça. Alors bon, justement, sur le Festival de Cannes, je passe la plupart de mon temps à rencontrer des auteurs qui ont des projets à nous soumettre, et il ne faut absolument pas hésiter. Ouais.
D'accord. Et l'aspect, le revers de ça, quand vous faites des adaptations de vos propres univers, comment ça se passe pour le sourcing? Comment vous trouvez justement les auteurs, les mécaniques? Vous décidez d'adapter un univers jeu vidéo en jeu de société. Ça passe forcément par de la commande, ou alors c'est en interne que vous développez ça? Ça se passe comment?
Les deux. Fatalement, on a des... Je n'aime pas trop ce mot, fatalement, en fait. On a des auteurs internes et des game designers internes.
D'accord.
Pour le jeu vidéo. Donc quand il y a une transposition, parfois elle va être limpide. Souvent, ça nécessite quand même de l'adaptation, parce qu'on le sait, jeu vidéo et jeu de plateau...
Même s'il y a une base commune, c'est assez différent.
Ce n'est pas la même chose, même si le jeu va se ressembler, si c'est une adaptation. Et parfois, on va simplement... trouver qu'on a un univers en interne qui est plutôt chouette, qu'on veut développer en externe, et on va passer une commande à un auteur.
D'accord.
Est-ce que du coup, ça arrive qu'il y ait des game designers côté jeux vidéo et jeux de société qui sont amenés à collaborer directement ensemble?
Le Cannes s'est pas présenté encore. Le Cannes s'est pas présenté, mais ce n'est absolument pas quelque chose d'impossible.
D'accord. Et du coup, puisque vous intéressez à différents types de médias, est-ce que il y a déjà eu des projets de jeux hybrides, par exemple, qui se sont présentés ou qui pourraient se présenter dans l'avenir?
Alors, qui pourraient se présenter, oui. Il y a des réflexions à ce sujet. Après, le jeu hybride, c'est quelque chose qui est encore très compliqué à mettre en place, rien qu'en termes de coûts, en fait, pour le public. Si on parle de, je sais pas, de plateaux connectés, par exemple, c'est quelque chose qui est relativement difficile, parce qu'il faut vraiment que le côté technologique apporte quelque chose. Si c'est pour que ce soit gadget, ça ne justifiera jamais le prix.
Ouais.
Et pour que ça apporte vraiment quelque chose, on se rend compte que ce n'est pas évident. Il y a, comme je disais, des réflexions dessus. Par contre, on n'en est qu'à ce stade pour l'instant.
D'accord. Je pensais aussi éventuellement à des jeux avec une app pour aider, ou des choses comme ça.
Oui. Oui, mais c'est... ce sera la même réponse, en fait. On n'a pas encore eu l'occasion d'avoir le bénéfice d'une app sur un jeu, si jamais ça peut vraiment servir le jeu.
Ouais, il y a pas eu la bonne idée où vous êtes dit là faut de l'hybride pour que ça soit intéressant ou pour que ça fonctionne quoi.
Exactement, oui.
Une de vos grosses ventes, je pense, et de vos locomotives chez Ankama Board Game, c'est Crossmaster, tu l'as cité tout à l'heure.
Oui.
Il y a eu un reboot dernièrement.
Alors, il y a eu effectivement un nouveau projet qui était Crossmaster Blast,
ouais.
Qu'on a lancé directement sur Kickstarter et qui est en late pledge au moment de cette interview. Donc oui, c'était pour nous nécessaire. La première version était sortie en 2012. On a sorti une version 2.0. Alors là, faut pas que je me trompe, 2015 ou 2016. Je dirais 2016. Et on a trouvé qu'il était... Alors, la version 2.0 mettait à jour, on va dire, les règles, et on a voulu faire une nouvelle version qui allait être plus actuelle et plus accessible également. Parce qu'on se rendait compte que on était sur un jeu où il y avait quand même déjà une grande quantité de figurines qui existaient. Oui. Pour les nouvelles personnes qui voulaient s'y mettre, c'était très compliqué. Il y avait aussi pas mal de produits introuvables. Il était nécessaire simplement de permettre d'avoir une nouvelle boîte de base.
Ok, donc ça répond à nos questions. On avait justement savoir s'il y avait encore beaucoup de figurines sur le marché de l'ancienne version. Est-ce que ça posait problème du coup? Est-ce que vous avez réfléchi à une compatibilité des figurines entre les versions, ce genre de choses?
Alors, il y a une compatibilité.
C'est dur à dire.
Inverse en fait, c'est-à-dire que on va permettre à ceux qui ont déjà les anciennes versions de jouer avec les nouvelles figurines qui vont sortir.
D'accord.
Parce qu'elles vont comprendre les deux types de profils, des profils anciens entre guillemets et des nouveaux profils.
Très bien.
Par contre, dans le sens inverse, il y a eu la réflexion, mais c'était impossible de faire d'un coup des centaines de profils pour un tout nouveau jeu.
Très bien.
Tu as cité en passant Kickstarter. C'est un j'allais dire un mode de production, pas un mode de production, mais donc un canal que vous utilisez ou que vous allez utiliser plus dans l'avenir. C'est devenu quelque chose de normal.
Alors, c'est un canal effectivement qu'on a commencé à utiliser avec Monster Slaughter il y a maintenant 2 ans. Là, on vient donc d'en lancer un second. C'est effectivement un canal qu'on va continuer à utiliser. De manière simple, c'est un canal qui est extrêmement pratique sur certains types de jeux, notamment le jeu à figurines, pour avoir déjà une première réponse du marché. Et ensuite, c'est aussi un bon outil de promotion pour ces jeux-là qui sont plus compliqués pour le marché classique puisque ce sont des prix plus élevés et sont aussi des projets qui parfois ne peuvent pas sortir sans cet aspect de relation directe au consommateur parce qu'on est sur des coûts de production qui vont être bien plus élevés et qui ne peuvent pas toujours permettre d'être dans le circuit classique.
Donc bien que justement Kickstarter commence à être pas mal encombré, je dirais, de projets, chez Ankama, on pense que c'est quand même un canal qui, pour ce type de projet, offre la bonne visibilité.
Alors, on a une réflexion en se disant que si le projet qu'on présente est intéressant, suffisamment novateur et suffisamment immersif également. On a quelques projets en développement, mais dont Arceis par exemple, qui est un jeu aussi qui sera un prochain Kickstarter qu'on présente actuellement sur le stand, qui est aussi un jeu de la team Kaedama. Avec des projets suffisamment immersifs, on peut apporter une expérience aux joueurs qui, liés au contenu du jeu, ne pourraient pas être présentés dans le circuit classique. On pense que ce type de projet peut tout à fait avoir sa place sur Kickstarter. Oui, après effectivement, si c'est juste pour faire un copier-coller de projets existants ou pour le dire simplement avec énormément de figurines pour que projet kiloplastique, ça va pas forcément nous intéresser beaucoup.
Et la transition Kickstarter circuit classique, après elle se fait bien? Vous arrivez à distribuer après de manière plus classique si vous voulez atteindre les boutiques et ce genre de choses après un Kickstarter?
Alors pour l'instant je n'ai qu'un exemple,
ouais.
Qui est Monster Slaughter. Sur Monster Slaughter ça s'est bien fait. Après effectivement c'est une réflexion différente, pour si je peux rentrer un peu dans les détails, c'est que on va être dans le circuit classique sur une un gain bien plus faible pour l'éditeur, puisque le produit coûte très cher et qu'il y a plus d'intermédiaires. Mais par contre, le circuit classique permet de produire plus et donc de produire moins cher que s'il n'existait pas. Donc il y a une sorte de...
Il y a une complémentarité entre les deux circuits.
Exactement, il y a un milieu à trouver pour que ça profite à tout le monde, simplement.
Tu parlais d'Arkeis, donc prochain projet justement, encore avec la team Kaedama. Tu peux nous en dire un petit peu plus déjà. Donc il est visible ici sur le stand à Cannes, c'est bien ça?
Alors il est visible ici sur le stand à Cannes. C'est un projet qu'on souhaite lancer sur Kickstarter au second semestre, en fin d'année plus précisément. C'est un projet qui est entièrement coopératif. C'est donc un jeu totalement coopératif, voilà, je vais m'en sortir, où les joueurs vont jouer des explorateurs qui vont explorer et essayer de vérifier une théorie sur l'Égypte antique. Donc ils vont se retrouver dans le désert à la recherche de preuves pour valider une théorie, ils vont tomber sur une pyramide qui n'avait pas encore été découverte, et ils vont se rendre compte petit à petit que ce qu'on apprend à l'école sur l'Égypte antique et la mythologie, ce n'est pas tout à fait exact. C'est donc un jeu à scénario et où on va progresser dans la pyramide avec différents embranchements, différents fils narratifs selon ce qu'on réussit à faire, aux objets qu'on réussit à accumuler ou non. Et voilà, ça va être une découverte permanente pour les joueurs.
Donc est-ce que du coup, le jeu de société Arkeis donnera lieu à d'autres déclinaisons de l'univers sur d'autres médias?
Parce qu'avec ce que tu nous dis en plus, j'ai l'impression que il peut y avoir des suites aussi.
C'est évidemment quelque chose qui est rentré dans la réflexion. Après, je suis incapable de vous répondre
aujourd'hui,
tant que le projet n'a pas été lancé. Ça va forcément dépendre de la réponse de la réponse des joueurs là-dessus.
Un sujet un petit peu plus poil à gratter, si on peut parler de
tout.
Très bien. On a eu des retours de joueurs un peu sur des problèmes de règles sur Boofball. Je sais pas si t'en as entendu parler, et puis comment ça se passe du coup quand on a des retours comme ça de règles qui sont pas assez clair, vous proposez des nouvelles versions de règles ou...
Alors sur Boofball justement, effectivement, on a eu ce retour-là également et on a travaillé une nouvelle version qui est normalement disponible, notamment sur Board Game Geek par exemple.
D'accord. Donc les gens qui ont encore l'ancienne version et qui veulent se procurer la nouvelle peuvent aller la télécharger.
Ça. Exactement, oui.
Très bien. Bon bah pour finir, est-ce que t'as à part ce qu'on a cité des projets dans les valises encore avec Ankama, est-ce que tu peux nous parler de la suite?
Alors la suite là qui arrive, donc on a Draftosaurus qui vient de sortir sur le salon. Suite à cela, on va avoir Welkin qui va arriver en juin, qui est un jeu de Fabien Tanguy illustré par Sylvain Sarai.
Tu parles de quoi du coup?
Alors où on va être un architecte qui... Tous les joueurs sont des architectes d'ailleurs, qui vont devoir construire des îles dans les cieux. C'est un jeu où il va avoir un management une gestion de la valeur des ressources, puisqu'en gros, quand on va produire des ressources qui vont servir à construire des îles, au moment où on construit l'île, on va gagner autant d'argent que la valeur des ressources qui ont été utilisées pour sa construction. Et cette valeur change tout le temps. Donc en fait, on va former des alliances temporaires en travaillant avec d'autres joueurs sur des mêmes types de ressources pour que leur valeur soit haute. Et faire différentes alliances temporaires comme ça pour que nous, quand on vende nos îles, elles soient, les ressources qui ont été utilisées soient toujours au max de leur valeur possible. Suite à Welkin, on va avoir Trésor de Cibola, qui est un jeu de Romaric Gallonier, qui est un jeu familial, où on va explorer un temple maya qui est en train de s'effondrer.
D'accord.
Et le petit twist très sympa, c'est qu'on va donc récolter à chaque tour une carte trésor. Tous les joueurs vont en récolter une. Ou dessus, il va y avoir différents trésors, sauf que la valeur de ces trésors va être fixée par les joueurs pendant la partie. C'est-à-dire que selon certaines cartes qu'on va prendre, on va pouvoir venir
changer la valeur.
Voilà, bloquer une valeur. Il y a plusieurs possibilités au départ. On a un tableau, tout simplement. On va pouvoir venir boucher des cases au fur et à mesure de la partie. Donc là où on est sur cet été, Trésor de Cibola. Suite à cela, on a Macao de Charles Chevalier, qui est un engine building qui se passe donc à Macao, où on va construire,
son nom.
Ouais, où on va donc construire un gang pour essayer d'avoir le plus d'influence possible sur la ville. Donc on va recruter des personnages et ça va devenir de plus en plus facile d'en recruter, d'acheter des bâtiments pour avoir le plus d'argent possible à la fin de la partie. Et enfin, pour finir l'année, on va avoir Poison qui va sortir sur Essen, qui est un jeu de Bruno Feluti, un party game étonnamment, où c'est un principe de double guessing à base de... Alors, je vais donner le contexte du jeu. On joue donc des différents émissaires, des différents poisons qui existent pour prouver que notre poison est le plus insidieux. Et donc, on a un petit jeu qu'on joue avec les autres joueurs, ou enfin avec les autres émissaires, pardon, où on va donc boire dans une coupe, décider de boire ou de ne pas boire plutôt, parce que chaque joueur va donner une carte à chaque autre joueur, qui va être soit une carte neutre, soit une carte poison, soit une carte avec un autre effet. Et à la fin de chaque tour, on va pouvoir marquer un différent nombre de points en décidant ou non de boire notre coupe, si on pense qu'on a été empoisonné ou pas.
D'accord, donc un programme de sortie bien dense pour cette année 2019.
Un programme bien dense, exactement.
Très bien. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, un message à faire passer ou un mot de conclusion.
Mais je voulais simplement vous remercier de m'avoir eu aujourd'hui.
Bah, c'était un plaisir.
C'était un plaisir.
Eh bien, merci beaucoup Pierre-Henri d'être passé nous voir sur le stand de Proxy Jeux. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la. Et rendez-vous sur notre page Tipeee, bien sûr, pour nous soutenir.
Ouais, on en a besoin.
Oui, merci d'avance. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À très bientôt et surtout,
jouez bien.